Eh bien, 3 semaines, ça passe rapidement. C'est long en même temps parce que vous m'avez manqué pendant ces 3 semaines et c'était une joie. Oui, c'est vrai. Une joie de se retrouver ce matin avec vous et autour de ces magnifiques chants à la gloire de notre Seigneur. Alors, bienvenue. Je voudrais vous saluer au nom de Jésus-Christ aussi. Bienvenue à tous ceux qui sont là de passage. Je vois des vacanciers. Salut! Des gens qui viennent aussi d'Alsace, il me semble. Bonjour, soyez les bienvenus. Peut-être d'autres personnes. Voilà, en tout cas, vous êtes ici chez vous, dans la famille de Dieu, et ça, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Ah, quelqu'un qui vient d'Afrique. Merci beaucoup. J'espère que vous allez tous bien. Qui est revenu de vacances déjà? À part moi et Chantal. Est-ce que tout le monde, vous allez partir en vacances au mois d'août? Oui, quand même. Ça. Alors, si vous êtes parents, vous avez certainement acheté des cahiers de vacances à vos enfants. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on faisait, nous, à notre époque, quand nos enfants étaient un peu plus jeunes. Mais à la fin des vacances, peut-être... il n'aurait pas été ouvert. Alors ce matin, je vous propose un cahier de vacances pour vous. Faire la lecture de 4 livres de la Bible qui couvrent une même histoire et une même période. Esdras, Néhémie, Agé et Zacharie. Bon, parce que ce matin, on va faire un petit peu d'histoire. Sébastien et Mathieu, nos profs d'histoire de notre assemblée, ne sont pas là. Ils auraient été mieux placés pour parler d'histoire. Mais bon, donc vous avez le pasteur pour parler d'histoire. Alexis, merci. Alors, pourquoi étudier l'histoire? Voici une réponse prise sur le site internet herodote.fr, un site qui est spécialisé de l'histoire. Et voici ce que nous dit ce site. L'histoire, autrement dit l'exploration du passé, nous aide à entrevoir d'où nous venons et où nous allons. En nous faisant mieux connaître le beau pays, il parle de la France, auquel nous avons le bonheur d'appartenir, elle nous prépare à bâtir ensemble notre avenir. L'enseignement de l'histoire nous permet de nous imprégner de leurs principes et de leurs leçons, voire d'éviter leurs erreurs, afin de faire fructifier leur héritage et le léguer à notre tour à nos propres enfants. André Larané, qui est auteur de plusieurs ouvrages d'histoire. Alors, la Bible ne contredit certainement pas ce point de vue. Dans la Bible, nous trouvons des livres qui sont essentiellement narratifs ou historiques. Nous avons aussi cette exhortation de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, verset 11, en parlant des exemples que l'on trouve dans l'Ancien Testament par rapport au peuple de Dieu Israël. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens 10, verset 11. Je voudrais apporter 2 nuances quand même à cette déclaration de M. Larané par rapport à la Bible. Alors, si la Bible peut être vue comme un livre d'histoire, elle ne parle pas d'histoire de France, elle ne parle pas d'histoire des États-Unis, elle nous parle de l'histoire de l'humanité, ou plus précisément, de l'histoire du salut de l'humanité. Elle commence par la création du premier couple humain et se termine par la grande vision de tous les peuples, de toutes les nations autour du trône de l'agneau dans une nouvelle création unifiée, ordonnée, réconcilié avec Dieu. Car Dieu, effectivement, est intervenu intentionnellement dans l'histoire de l'humanité, plus particulièrement par le biais d'un petit peuple à vocation universelle, Israël, parmi lequel est né le Sauveur des hommes, Dieu fait homme, notre Seigneur Jésus-Christ. Connaître l'histoire de France nous connecte en tant que citoyens de France. Certains y trouvent de la fierté, d'autres parfois de la honte. Mais lire la Bible y compris dans ses faits historiques, nous connecte à la grande histoire qui transcende toutes les autres histoires parce qu'elle nous fait connaître le dessein bienveillant de Dieu, ce dessein qu'il a mis en œuvre et qu'il a réalisé en Christ et qui sera totalement accompli. Ça, c'est les Africains, hein ? Quel est ce dessein ? Réunir toutes choses. Il a été donné une parole ce matin sur le fait que nous serons tous réunis en Christ. Réunir toutes choses sous l'autorité de Jésus le Christ. Autre nuance, la Bible ne se veut pas être un manuel d'histoire, parce qu'elle est la parole vivante de Dieu, et Dieu parle de lui et de son œuvre au travers d'elle aux humains que nous sommes dans notre aujourd'hui. La Bible n'est pas un vieux livre d'histoire, un manuel de faits historiques et antérieurs à nous, elle vient nous rencontrer dans notre aujourd'hui. Et lorsque nous lisons même des faits historiques dans la Bible, Dieu nous révèle qui il est et comment il agit. Lire la Bible, c'est nous imprégner de lui et de la vision du monde qu'il nous offre. En lisant la Bible, en grandissant dans la connaissance de la grande histoire, je trouve en quelque part ma place dans le courant de cette histoire, ainsi que le sens de ma vie croyante. Et même si chacun d'entre nous avons le sentiment que dans notre quotidien, nous ne faisons que casser quelques cailloux dans l'œuvre de Dieu, nous sommes tout de même en train de participer au déploiement du dessein de Dieu. Vous connaissez tous cette parabole, je crois que c'est Charles Péguy qui la cite. Mais je l'aime tellement que je vais vous la redire, parce que je ne sais pas si vous la connaissez, mais quelqu'un visite un grand chantier. Il rencontre quelqu'un en train de casser des cailloux et cette personne qui visite ce chantier demande à la personne qui casse des cailloux « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu te réjouis dans ton travail ?» Et la personne qui est en train de casser des cailloux dit « Comment pourrais-je me réjouir dans mon travail puisque je ne fais que casser des cailloux tout le long de la journée ?» Il continue la visite du chantier, il voit quelqu'un qui fait les mêmes gestes avec les mêmes cailloux et puis du matin jusqu'au soir, il dit « Et toi, est-ce que tu te réjouis de faire ce que tu es en train de faire ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et la personne dit « Oui, oui, je me réjouis de ce que je suis en train de faire parce qu'en cassant des cailloux, ben, j'arrive à nourrir ma famille, j'arrive à prendre soin des miens. Donc, c'est un bon travail. » Il continue la visite de son chantier et puis il rencontre quelqu'un qui est en train de casser des cailloux de la même manière, avec la même force, avec les mêmes gestes. Et cette personne qui visite le chantier lui dit « Et toi, est-ce que tu te réjouis de ton travail ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et la personne qui était en train de casser des cailloux, de manière enthousiaste, lui dit « Mais oui, je me réjouis de ce travail parce que vous savez, monsieur, je suis en train de construire une cathédrale. » Et je crois que dans notre vie, ce que nous faisons dans notre quotidien doit être influencé par la grande vision de ce programme. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment ? Vous vous reposez, vous allez vous reposer, je me suis reposé. Mais je suis aussi en train de construire l'œuvre de Dieu dans mon quotidien. Même si j'ai l'impression que de casser que de quelques cailloux, le Seigneur m'emploie dans son quotidien et dans son grand dessein. Je suis allé visiter Jean-Jacques de retour de vacances vendredi après-midi. Et puis Jean-Jacques, il est à l'hôpital et il vient de vivre une période très difficile où de la fièvre inexpliquée qui était là. On ne sait pas encore quel est le microbe qui l'a touché. Et puis je le trouve d'une manière réjouie. Il a renoué avec une lecture de la Bible. Il dit, la nuit, je me réveille, je lis la Bible. Le matin, je suis là, je lis la Bible. Et il a renoué dans un zèle, renouvelé la lecture de la Bible. Et puis, il me dit, tu sais, je prie pour les gens qui sont malades dans l'hôpital. Je suis en train de prier pour toutes les personnes qui sont là, qui sont malades dans cet hôpital. Alors on peut se dire, mais pourquoi le Seigneur a permis que Jean-Jacques soit malade ? Pourquoi est-ce que Jean-Jacques a subi une telle fièvre pendant 15 jours ? Peut-être le Seigneur s'est servi de lui pour prier pour cet hôpital. J'ai trouvé qu'il avait une vision plutôt haute de son séjour à l'hôpital. Il aurait pu se morfondre et dire « je fais que casser que quelques cailloux, comment pourrais-je me réjouir ?» Dans son épreuve particulière, il a vu qu'il faisait partie du dessein de Dieu et je pense que ça l'a élevé. Voilà un témoignage qui était important. Je vous propose ce matin de lire dans le livre d'Esdras, au premier chapitre. Avant de lire, un petit mot sur le contexte historique. Les livres d'Esdras et de Néhémie couvrent en fait trois vagues de retour du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, Israël, est en exil à cause d'un jugement. Ils ont été désobéissants, ils n'ont pas été soumis à l'alliance de Dieu. Et effectivement, ils sont en déportation. Jérusalem est détruit, le temple de Jérusalem est détruit, ils se retrouvent à Babylone. Hein. Voilà, le prophète Jérémie avait prédit cela et il avait aussi annoncé qu'au bout de 70 ans, le peuple qui était en exil à Babylone retournerait dans son pays. Donc les livres d'Esdras et de Néhémie couvrent en fait trois vagues de retour du peuple de Dieu. La première et la principale, ça se passe en 538 avant Jésus-Christ et avait pour but la reconstruction du second temple. Le temple de Salomon avait été détruit en 586. Le second temple a été achevé en 516 avant Jésus-Christ sous l'impulsion des prophètes Agée et Zacharie. La deuxième vague a lieu en 458 avant Jésus-Christ sous l'impulsion d'Esdras. Et la troisième vague a lieu en 445 avant Jésus-Christ sous la direction de Néhémie. La période du retour couvre le règne de quatre rois perses, Cyrus, Darius, Xerxès et Artaxerxès. N'appelez pas vos enfants comme ça, hein, c'est pas terrible. Voilà. Et cette histoire couvre à peu près les 100 dernières années de l'histoire de l'Ancien Testament. Voilà. Alors le livre d'Esdras est-il pertinent pour nous? Il me semble que oui. Parce que le livre d'Esdras raconte l'histoire comme d'un second exode, alors que le peuple de Dieu revient de 70 ans de captivité. C'est une histoire de grâce, une histoire de pardon, une histoire de restauration. C'est l'histoire d'un nouveau commencement et une nouvelle période de renouveau pour le peuple de Dieu, une période de réveil et de restauration. Après 70 ans d'oubli, pendant lequel Israël perd le sens de sa vocation, le Seigneur, fidèle à sa parole et à son alliance, remet en avant son peuple. Zorobabel, qui va être un de ceux qui vont conduire le retour de l'exil, va être un des ancêtres de Jésus, notre Sauveur. Le retour d'exil fait partie de l'histoire de la rédemption. Alors Esdras est pertinent pour nous, en tant qu'Église, parce que je crois que l'Église a toujours besoin de renouer avec sa vocation, toujours besoin de renouer à son appel. Nous avons toujours besoin de recommencement, de restauration, de renouveau et de réveil. Et j'espère que vous serez d'accord avec moi. Alors on va lire Esdras chapitre 1. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, et il fit faire de vive voix et même par écrit la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple ? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui le Dieu qui réside à Jérusalem. Partout où s'est installé le reste du peuple de l'Éternel, les habitants de l'endroit lui donneront de l'argent, de l'or, du matériel et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et tous leurs voisins leur donnèrent des objets en argent, de l'or, du matériel, du bétail et des choses de valeur, en plus de toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait ramenés de Jérusalem et placés dans le temple de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les rendit par l'intermédiaire de Mithridate, le trésorier, qui en fit le compte pour Shebatsar, le prince de Juda. Et en voici la liste. 30 bassins en or, 1000 bassins en argent, 29 couteaux, 30 coupes en or, 410 coupes en argent de valeur secondaire et 1000 autres ustensiles. Le nombre total d'objets en or et en argent était de 5400. Tout cela, Shebatsar le ramena de Babylone à Jérusalem avec ceux qui revenaient d'exil. On se croirait en assemblée générale, là, hein, quand on fait les comptes. Ce qui frappe à la lecture de ces versets, eh bien, c'est la certitude que Dieu est en train de diriger l'histoire. Le Dieu qui se dévoile dans l'histoire est un Dieu qui est souverain de l'histoire. Et l'auteur du livre en est convaincu. C'est Dieu qui réveille l'esprit de Cyrus et qui agit dans le bon timing, selon la prophétie de Jérémie, comme il nous a été dit ce matin, au bon moment, au bon endroit. Également, c'est aussi le Dieu souverain qui réveille l'esprit de ceux qu'il appelle à sortir de l'exil. Dieu réveille l'esprit de Cyrus, Dieu réveille l'esprit de ceux qui doivent partir de l'exil. On a vraiment l'impression que Dieu est au contrôle de l'histoire, que Dieu est souverain de l'histoire. Lorsqu'on parle de souveraineté divine, on peut facilement tomber dans une mauvaise compréhension de cette souveraineté. Par exemple, la placer au-dessus de tous les attributs de Dieu. Et nous avons ici, dans cette pensée-là, un Dieu arbitraire qui agit comme il veut, selon l'humeur du moment, si vous voulez. Le Dieu de la Bible n'est pas ainsi. Il est totalement souverain, totalement bon, totalement bienveillant, totalement juste et amour. L'apôtre Paul dira que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. De même, nous avons aussi à conjuguer souveraineté de Dieu, que Dieu est totalement souverain, et puis aussi responsabilité humaine. Cyrus n'agit pas comme une marionnette. Alors comment s'est exprimée cette souveraineté de Dieu sur Cyrus? Comment Dieu a fait pour réveiller Cyrus, l'esprit de Cyrus? On ne sait pas trop. L'historien Joseph conjecture que c'est en lisant les prophéties d'Ésaïe le concernant que l'idée germa dans le cœur de Cyrus. Ce qui est un fait incroyable. Ésaïe 44, 22 annonce qu'un Messie viendra et qui s'appellera Cyrus. Et je dis à propos de Cyrus, Ésaïe 44, verset 28, « Il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, sois reconstruite et au temple, que tes fondations soient posées. » Il faut savoir quand même que Ésaïe est antérieur à Cyrus d'un peu plus de 100 ans. C'est remarquable, n'est-ce pas? Mais peut-être que Cyrus ne connaissait pas cette prophétie le concernant et qu'il a agi simplement pour s'assurer de la fidélité des peuples en leur donnant ce qu'ils attendaient. Le texte biblique nous dit que c'était sa première année de règne. Et dans une première année de règne, eh bien, c'est bon d'envoyer des signaux, des bons signaux pour la paix dans l'Empire. On a trouvé un cylindre que l'on appelle le cylindre de Cyrus et qui est exposé au British Museum et qui vient témoigner en faveur de ce qu'on lit dans la Bible. Tu es là? Tu peux me le passer? Voilà. Donc si vous allez à Londres et que vous visitez le British Museum, vous pouvez aller voir ça. Et ce cylindre, donc en écriture cunéiforme, je ne sais pas lire hein, ça, parle d'un décret de Cyrus, va faire l'éloge de Cyrus, va glorifier Cyrus, et un des textes nous dit que Cyrus a été considéré comme un bienfaiteur des citoyens de Babylone, qui a amélioré leur vie, qui a rapatrié les personnes déplacées et restauré les temples et lieux de culte à travers la Mésopotamie et dans la région. Il n'a pas fait simplement cela que pour le peuple d'Israël, il a fait cela aussi pour d'autres personnes et d'autres peuples. En tout cas, Cyrus n'était pas un roi croyant. Il était plutôt un suzerain idolâtre. Mais quoi qu'il en soit, l'auteur d'Esdras y voit l'action de Dieu et il a bien raison de l'y voir, car Dieu se sert aussi des incroyants. Comment Dieu a agi comme souverain de l'histoire dans le cœur des gens qui sont prêts à partir à Jérusalem ? Les personnes qui partiront de l'exil ne sont pas non plus des robots programmés. Voilà ma pensée. Dieu a réveillé l'esprit des personnes par la parole et par la lecture de la Bible et par la prière. Nous avons l'exemple de Daniel, chapitre 9 du livre de Daniel, qui est en train de lire les paroles du prophète Jérémie et qui comprend que le temps d'exil va bientôt toucher à sa fin. Et il prie, pour ce retour. Daniel est déjà avancé en âge. Nous avons le même exemple dans Esdras 9, où Esdras prie et se repent et comprend que le Seigneur l'appelle à revenir à Jérusalem. Des hommes de prière, des lecteurs de la Torah, de l'Ancien Testament, qui comprennent les temps, qui se repentent, qui rappellent les promesses de Dieu à son alliance et qui se mettent en marche dans l'obéissance. Voilà comment Dieu agit pour réveiller l'esprit de ses enfants. Il nous rappelle sa souveraineté. Il nous rappelle également notre responsabilité, notre vocation et notre appel lorsque nous prions et que nous sommes confrontés à sa parole. Lorsque nous prions, et c'est dangereux de prier, lorsque nous prions, Dieu va mettre en nous les graines de sa pensée. Ces graines qui vont nous transformer et qui vont nous mettre en mouvement conformément à sa volonté. Et nous pouvons dire alors que c'est Dieu qui réveille l'esprit des gens qui vont partir de Babylone pour aller à Jérusalem et reconstruire le temple. Paul écrit par exemple que Dieu a mis en nous le vouloir et le faire. Lorsque nous sommes en prière devant la parole de Dieu et que la parole de Dieu nous vient nous toucher, eh bien, il y a comme un mouvement de l'esprit qui met en nous sa pensée. Et alors nous avons un désir qui naît, qui est en train de naître. Peut-être aller visiter un tel, peut-être aller prier pour ceci, aller prier pour cela, aller donner des crêpes à son voisin. Que sais-je ? D'où est-ce que cela vient ? Est-ce que ça vient de nous ? Ou est-ce que ça vient du Seigneur qui vient mettre cela en nous ? Dieu a mis en nous le vouloir et le faire. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, et lorsque nous prions, lorsque nous sommes dans ce face-à-face avec le Seigneur dépose les graines qui vont nous faire grandir et nous transformer. Nous faisons partie de la grande histoire. C'est comme cela que je comprends, en tout cas, lorsque Jésus parle à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur, il obéit tout simplement. Il casse des cailloux. Je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous ai fait connaître mon dessein et mon œuvre. Ami de Dieu. Non seulement Dieu est souverain dans les grandes histoires, mais Dieu aussi est souverain dans nos petites circonstances. Et ça, c'est important. Dieu est souverain lorsqu'il dirige l'histoire d'un peuple, Dieu est souverain lorsqu'il dirige aussi nos petites histoires. Alors pourquoi est-ce que c'est important de comprendre que Dieu est un Dieu souverain ? Deux raisons, pour ma part, sûrement d'autres. Parce que, d'une, c'est rassurant et c'est réconfortant. Quand vous avez allumé la télévision, on ne parle pas que de vacances et de plages. On parle de forêts qui brûlent, on parle de bombardements, on parle de Covid, on parle de variole du singe, on parle de chaleur excessive, on parle de planète qui est en train de se détruire, on parle d'inflation. Oui, vous êtes concernés ? Waouh, Dieu, tu nous as oubliés ? Où es-tu ? Que fais-tu ? Je mets mon pantalon. Pardon, ça c'est autre chose. Excusez. L'agneau sur le trône a été digne, trouvé digne d'ouvrir le livre et de déceler les sceaux. Il est le souverain maître de l'histoire. Et lorsque même dans cette vision d'Apocalypse, on nous parle de la bête et on nous parle des faux prophètes, c'est marqué « il lui fut donné, il leur fut donné ». Qui est en contrôle ? Qui est en contrôle ? Qui est souverain de l'histoire ? Qui gouverne l'histoire ? Alors c'est rassurant, n'est-ce pas ? Que nos vies sont dans sa main. Et quelqu'un a dit ce matin que notre destinée est le ciel. Ok, mais pour l'instant, nous sommes là. Et nous faisons partie de ce grand dessein de Dieu. La crainte ne fait pas partie de la panoplie de l'armure du chrétien. C'est la foi qui fait partie de la panoplie de l'armure du chrétien. L'espérance fait partie de notre croyance. L'espérance est votre et notre héritage. Pas la crainte, pas le doute, pas les frayeurs. La seconde raison, pourquoi est-ce que je pense que la vision d'un Dieu souverain est importante ? Parce que c'est enthousiasmant. C'est enthousiasmant. Parce que c'est moteur, parce que c'est motivant. Parce que Dieu aura toujours le dernier mot. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Parce qu'il est le premier et le dernier. Et parce qu'il nous fait la grâce de participer à son dessein. Voilà pourquoi c'est enthousiasmant. Jésus est le prince de la vie, celui qui a vaincu la mort, qui est sorti victorieux de la mort. Qui est sorti victorieux de la mort ? Personne d'autre que Jésus le Christ, que Jésus notre Seigneur. Qui marche devant nous comme une bannière ? Notre Seigneur. Qui nous amène de triomphe en triomphe ? Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est lui. Ça, c'est enthousiasmant, n'est-ce pas ? Lorsque le Seigneur nous apprend à prier, que ton règne vienne, ce n'est pas une prière plaintive, c'est une prière triomphante. C'est une prière qui annonce le triomphe de Dieu dans l'histoire du monde. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Le renouveau de l'époque d'Esdras commence par cette pensée que Dieu réveille l'esprit de Cyrus et réveille l'esprit du peuple qui doit repartir. Le renouveau dans l'histoire d'Esdras commence par cette vision de la souveraineté de Dieu dans l'histoire. Il me semble qu'un renouveau de l'Église, c'est aussi cette redécouverte, non pas qu'elle n'était pas là, cette redécouverte, cette illumination à nouveau que Dieu est Seigneur, que Dieu gouverne toutes choses. Et je mourrai pour conclure. Et pour citer quand même le Nouveau Testament, bien que je l'ai cité à plusieurs reprises, lire avec vous Éphésiens chapitre 1. Et vous allez dire Amen à la fin, j'espère. Verset 17, chapitre 1 d'Éphésiens, verset 17. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Non pas que nous ne le connaissions pas, mais un renouveau dans cette connaissance. Je prie pour qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, quelle est son infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé au-dessus de Monsieur Poutine. C'est ça, c'est marqué là. Hein ? C'est ça qui est marqué là, non ? Vous ne lisez pas pareil que moi ? Non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qui est notre chef ? Qui est notre chef ? Jésus. Qui domine au-delà de toute domination et de toute autorité ? Qui c'est ? Vous êtes un peu timide ce matin, hein ? Jésus. Alors, je dis Amen à ce texte. Je dis Amen et je veux le croire et je veux le confesser avec vous. Et nous voulons tous dire Amen à ce texte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui souffrent et des gens qui souffrent et qui meurent. Mais nous croyons que Dieu est souverain sur tout cela. Et nous prions pour nos frères en Ukraine, et nous prions pour nos frères en Casamance, et nous prions pour tous les endroits où les gens souffrent. Et nous déclarons que Dieu est aussi en contrôle et en souveraineté. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Alors, devoir de vacances, Esdras, Néhémie, Agée et Zacharie. Si vous voulez prolonger, vous pouvez lire aussi Daniel, n'est-ce pas ? Je vous embrasse toutes et tous. Que le Seigneur vous bénisse.